If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités, j'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast pour vous partager un échange que j'ai eu avec Julie Labelle, qui est la fondatrice de la marque éponyme, qui est une marque de maquillage naturel, vegan, éco-responsable et surtout multifonction. Je dois vous avouer que cet épisode a une saveur un peu particulière puisque je connais Julie depuis de très très longues années, puisque ça a été l'une, là, si je dirais là, première youtubeuse beauté en France. Donc pour les gens qui étaient déjà sur YouTube au début des années 2010, vous connaissez peut-être le pseudo Julie Loves Mac 07. C'est un peu la personne qui nous a enseigné à nous maquiller à cette époque-là. Eh bien, je suis très heureuse de la recevoir pour qu'elle puisse nous partager son expérience, à la fois son passé, puisqu'elle a travaillé pour des grands groupes dans la cosmétique, pour finalement décidé de quitter ce milieu qui a été une sorte de désenchantement pour elle pour lancer une marque de cosmétiques en accord complet avec ses valeurs. Donc si vous vous demandez finalement ce que ça représente de créer une entreprise de ce type, quelles sont les coulisses, comment est-ce que ça se met en place, quelles sont les difficultés, quels sont les projets de Julie aujourd'hui, eh bien c'est l'épisode parfait pour vous. Donc sans plus attendre, eh bien je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute. Salut Julie.
Salut Safia.
Comment vas-tu ?
Je vais très bien, merci. Et toi ?
Mais ça va très bien. Je suis très contente de faire cette interview avec toi. Comme je te l'ai dit quand on s'est parlé sur LinkedIn, tu m'as fait découvrir YouTube et les vidéos cosmétiques. Et pour moi, ça a été genre la révolution. Genre, j'ai appris à me maquiller. Avant, je faisais n'importe quoi. Quand je revois mes photos d'avant, je me dis waouh, heureusement que YouTube est arrivé à ce moment de ma vie.
Oui, et quand moi je revois les vidéos que je faisais sur YouTube, parfois je me dis pourquoi je faisais ça.
C'est clair que pour l'époque, tu vois, c'était waouh, c'était innovant, c'était juste incroyable. Avant d'arriver à cette partie-là de ta vie, moi j'avais envie d'en savoir plus sur toi, à un niveau perso, et notamment quel genre d'enfant tu étais.
Quel genre d'enfant j'étais ? Alors moi j'étais une enfant assez solitaire. J'ai toujours été, bon, globalement je suis quelqu'un d'assez introverti et je pense que je l'ai toujours été. Et j'étais assez solitaire. Moi, j'ai grandi, en fait, franchement, j'ai grandi à la campagne, hein, très honnêtement. J'ai grandi dans un village de peut-être 350 habitants, tu vois. Enfin, je suis née à La Rochelle, mais j'ai grandi dans le sud-ouest, dans un village. Et mes parents avaient un rêve de rénover une ferme et tout machin. Et du coup, j'ai grandi vraiment dans la nature. J'étais vraiment un peu... C'était marrant parce qu'à la fois, j'avais un côté un peu aventurière, tu vois. Je bricolais des cabanes en bois dans le jardin. J'élevais des têtards. Enfin, vraiment, des trucs vraiment un peu bizarres. J'étais un peu chelou, il faut le dire. J'étais un peu bizarre. Et d'un autre côté, j'avais un côté un peu...
un peu fifi et ultra coquette aussi, tu vois. J'adorais que ma maman me coiffe, me maquille, etc. Enfin, je jouais un peu la fille, mais j'avais vraiment cette double, on va dire, cette double enfance un peu à la fois fillette et en même temps complètement aventurière et un peu barrée.
Ouais, c'est un bon équilibre, je trouve.
Oui, complètement. Complètement.
Et du coup, ça a été quoi ton rapport finalement à la beauté et aux cosmétiques? Est-ce qu'à partir de là, ça a toujours fait partie de ta vie ou est-ce qu'il y a eu une espèce de coupure et que tu as repris peut-être, je sais pas, à l'adolescence ou quelque chose comme ça?
En fait, ça faisait partie pas mal de mon enfance. En effet, surtout ma grand-mère, en fait. Ma grand-mère était ultra coquette et vraiment, je pense que je tiens ça d'elle, tu vois. Je me rappelle, elle adorait, tu vois, me montrer ses produits. Je lui appliquais sa crème Nivea, etc. tu vois. Et du coup, j'avais gardé un peu ce truc-là pour la cosmétique. Ensuite, quand je suis passée à l'adolescence, j'ai une partie où, globalement, j'étais surtout plus sur les coiffures. Je sais pas, j'avais un délire avec les fers à lisser, etc. Et plus tard, en effet, je dirais après l'adolescence, vers 17-18 ans, enfin, pendant l'adolescence, mais on va dire l'adolescence tardive, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au make-up, en fait. En tombant d'ailleurs sur une vidéo YouTube d'une américaine à l'époque qui faisait des vidéos sur plein de marques que moi je connaissais pas, MAC, etc. Et moi je suis tombée complètement fan de ce truc là en me disant mais c'est génial, en plus c'est des nanas qui ont l'air tu vois ultra sympa, et ça me faisait un peu des copines à distance, donc enfin des copines avec qui je ne parlais pas évidemment, mais juste des copines que je regardais, et du coup je me disais ah, c'est chouette, j'ai envie d'apprendre un peu plus à me maquiller, donc c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans et que d'ailleurs j'en ai fini par en faire un peu un métier puisque je suis devenue ensuite youtubeuse pour quelques années.
Ouais, carrément. Mais du coup à quel moment, enfin, t'avais quel âge quand t'as décidé de lancer ta chaîne YouTube?
J'avais 18 ans.
Ok, et donc t'as pris une petite caméra chez toi et t'as commencé comme ça à faire des petites
vidéos. À l'époque, j'avais même pas de caméra, j'avais la webcam de mon ordinateur.
Ok.
Ouais, donc vraiment très très old school, ultra pixelisé, enfin vraiment, on était, tu vois, à l'époque, c'était donc 18 ans, on était en 2008, hein, donc ça date, hein, ça remonte à quelques années maintenant. En 2008, si tu veux, YouTube, il n'y avait personne en France quasiment dessus, on était vraiment très peu nombreux. Et du coup, j'ai pris mon ordinateur, allumé ma webcam, fait une vidéo en réponse à une vidéo. En plus, parce qu'à l'époque, tu pouvais faire réponse en commentaire vidéo. Et j'ai répondu à une vidéo d'une américaine en faisant un make-up inspiré de son truc et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Et à l'époque, les gens disaient « Mais pourquoi tu continues pas ?» Donc, il y a des gens qui tombaient sur ma vidéo, ce qui était déjà assez hallucinant. Et on me demandait « Pourquoi tu continues pas ?» Il n'y a personne qui fait ça en France. Et c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans, quoi.
Ok, c'est fou. Mais attends, t'étais au lycée à ce moment-là ?
Non, j'étais pas au lycée. J'ai commencé, en fait, je crois, de mémoire pendant l'été entre lycée et la fac. Parce qu'ensuite, okay. Je suis rentrée à la fac. Je suis passée du lycée à la fac. Et c'est vraiment au début de la fac où je commençais à faire mes vidéos. Et j'ai eu un peu honte, donc j'ai tout arrêté.
Ouais.
Mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'exposes sur Internet? Il y a des pervers, etc., etc. À l'époque, encore une fois, c'était très, très mal vu. Et du coup, j'ai continué quand même. J'ai repris au bout d'un moment parce que mon copain m'a dit, mon copain de l'époque me disait, mais c'est trop bête. T'adores ce truc-là. Pourquoi tu le fais pas? Et du coup, j'ai repris et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est devenu une chaîne. En tout cas, pour les personnes qui regardaient YouTube à ce moment-là, c'était une chaîne incontournable et que tout le monde connaissait, ça c'est sûr. Toi, t'as réussi à monétiser tout ça assez rapidement.
Ouais. Enfin. Je l'ai monétisé finalement, alors rapidement et en même temps assez tardivement pour l'époque, tu vois, parce que moi, je crois que j'ai commencé à toucher mes premiers euros au bout de 2-3 ans de YouTube. Et à l'époque, en fait, c'était même pas des collaborations. Maintenant, les revenus YouTube, c'est principalement des collaborations marques, etc. Moi, l'argent que j'ai gagné, et d'ailleurs la plupart de l'argent que j'ai gagné, c'était juste grâce aux publicités qui étaient diffusées à côté de mes vidéos, tu sais, les pré-rolls, etc. Ouais. À l'époque, c'était vachement rémunérateur et c'est comme ça, en fait, que je gagnais, on va dire, ma croûte à l'époque, quoi, en faisant ces vidéos qui étaient, du coup, sur lesquels il y avait des publicités.
Oui, parce que du coup, pour remettre en contexte, il n'y avait pas Instagram comme c'est aujourd'hui, etc. Tous les outils de communication qu'ont les youtubeurs, les influenceurs, etc. Il n'y avait pas tout ça en fait.
Non, pas du tout, pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas Insta. Moi, je pense que je l'ai eu un peu plus tard. Ou du moins, s'il y avait, moi, je n'étais pas au courant. Ouais. Voilà. Moi, j'étais vraiment que sur YouTube. Et Facebook, j'ai lancé. Enfin, c'est une amie d'ailleurs qui a lancé une page Facebook pour moi à l'époque. Et on a lancé le truc comme ça, mais vraiment, tu vois, sans aucune ambition en fait d'en faire quelque chose à l'époque. Vraiment, c'était juste ma façon de partager ma passion avec des nanas de mon âge, de filer un coup de main aussi, des conseils. Et la page Facebook qu'on avait lancée à l'époque, c'était dans la même optique, quoi. Il y avait une espèce de communauté, un genre de forum en fait sur Facebook sur lesquels les filles s'entraidaient. C'était trop bien.
Et le blog, il est arrivé combien de temps après ?
Le blog, il est arrivé un peu plus tard. Il est arrivé, j'étais en école de commerce, tu vois, donc ça devait être 4-5 ans après. Et là, je me souviens, j'avais investi vachement d'argent là-dedans, justement l'argent que j'avais gagné via YouTube, parce que j'étais persuadée qu'il fallait avoir un espace un peu plus sympa pour échanger et tout. Et donc, on avait vraiment développé à l'époque un forum spécifique pour que les filles puissent échanger. Il y avait des modératrices et tout, c'était trop bien. Tout le monde était super investi, c'était vraiment une époque assez, assez incroyable.
Et t'as réussi à fédérer les gens, en fait, à fédérer une vraie communauté, et pas juste à avoir une audience et des vues sur YouTube, quoi. C'est allé beaucoup plus loin que ça.
Bah, c'est allé beaucoup plus loin de ça, je pense, parce que moi, je considérais pas ça comme une audience. En fait, vraiment, pour moi, c'était les filles qui me suivaient, c'était comme des copines, quoi. Vraiment, j'ai jamais, je pense, et encore aujourd'hui, j'ai toujours du mal à le voir comme ça. Pour moi, c'est des personnes qui me suivent déjà depuis, tu vois, mes 18 ans, j'en ai 33. Donc ça fait, et du coup, je les vois vraiment plus comme des personnes avec qui j'ai pu échanger et des copines, quoi, vraiment.
Oui. T'as vécu combien de temps, du coup, de cette activité de youtubeuse ?
Alors, cette activité de youtubeuse, en fait, j'en ai vécu pendant toute mon école de commerce. Okay. Enfin, j'en ai vécu. C'est-à-dire que, donc, à partir de l'école de commerce, j'ai été indépendante financièrement. Mes parents, tu vois, ne payaient pas mon loyer. Enfin, je payais mon loyer, mes courses, mon échange. Je suis partie à Singapour en échange pendant 6 mois. Ça m'a permis, en fait, d'être complètement autonome financièrement sur toute cette période-là, quoi.
Ok. Et du coup, quand tu as fini tes études en école de commerce, tu t'es pas mis full-time sur ton activité de youtubeuse. Tu as plutôt décidé de partir sur le salariat, c'est ça ?
Ouais, complètement. En fait, j'ai toujours adoré ça, mais j'ai toujours vu ça comme un hobby et je voulais pas en faire mon métier. Aussi, à l'époque, j'avais quand même pas mal de pression de rentabiliser mon école de commerce. Et donc, je voyais pas, si tu veux, j'aurais culpabilisé, je pense, de devenir youtubeuse à plein temps, alors que l'école m'avait coûté la peau des fesses. Et du coup, je voulais un peu aussi rendre finalement l'appareil, tu vois. Et du coup, j'ai décidé quand même de rentrer dans le salariat, aussi parce que j'avais rêvé vraiment de bosser dans le luxe à l'époque. J'utilisais des marques de luxe, j'adorais ça, enfin les marques cosmétiques, voilà, je me ruinais pour m'acheter un fond de teint Chanel, etc. Et du coup, mon rêve vraiment, c'était de bosser là-bas. Et du coup, en sortant de l'école de commerce, je me suis dit, bon, bah, go, quoi.
Donc, tu as réussi à obtenir du coup un job de rêve pour toi, en tout cas à ce moment-là de ta vie. Est-ce que le fait d'être youtubeuse, ça t'a aidé ?
Alors, ça m'a aidé dans le sens où je pense que ça fait la différence quand tu as un candidat, tu vois, mais peu importe l'activité qu'il a à côté. Ça différencie ton CV de toute personne, tu vois, qui te ressemble en fait. Tu as un truc en plus, tu vois. Moi, c'était YouTube, mais ça montrait en fait que depuis mes 18 ans, je bossais, quelque part, tu vois, j'étais assez dynamique, j'étais aussi assez autonome, etc. Donc, je pense que ça renforce en tout cas au moment où tu es en entretien, le fait que tu es capable de, tu vois, d'être indépendant, etc. et de gérer des projets, quoi. Donc, ça crée une différence et surtout peut-être que les gens aussi s'en rappellent un peu plus, tu vois. Ils se disent, bon, bah, elle a ce truc en plus, tu vois. Quel qu'il soit, ça peut être, j'en sais rien, tu fais de la musique à côté, tu vois, mais tu as une passion ou quelque chose qui t'anime, qui renforce, tu vois, un peu l'image face au recruteur, quoi. Je pense que c'est ça qui a joué, ouais.
Et du coup, chez cette marque de cosmétiques de luxe pour laquelle tu as travaillé pendant plusieurs années, tu faisais quoi ?
J'étais responsable innovation maquillage. Donc en gros, mon job à l'époque, c'était... Enfin, j'ai pas évidemment... mon dernier poste, c'était responsable inno. J'ai commencé stagiaire. J'ai ensuite gravi, on va dire, les échelons comme ça. Mon job, c'était d'inventer les produits maquillage du futur, en quelque sorte, du futur de la marque. Donc en gros, je bossais sur les lancements de 3 à 5 ans. Donc les produits qui sortiraient dans 3 ans, dans 5 ans, etc., en cherchant du coup à créer des produits innovants qui n'existaient pas sur le marché. Mon job, c'était vraiment de créer ce qu'on appelle des innovations de rupture, donc des innovations vraiment qui viennent changer un peu la donne, une gestuelle, quelque chose comme ça, quoi.
Sur le papier, ça a l'air très très cool.
Ouais, ah, sur le papier, c'est génial. Sur le papier, c'est génial. Sur l'offre d'emploi, c'était génial. Dans la réalité, c'était vraiment différent. On va dire que déjà, globalement, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses. Il y avait la part humaine qui était un peu spéciale, on va dire, avec laquelle je n'étais pas forcément alignée. Je ne me retrouvais pas vraiment dans les valeurs, etc., de la boîte, dans la façon dont étaient traitées les personnes qui travaillaient dans cette boîte-là. Et aussi, il y a eu ce côté où je réalisais qu'en fait, mon taf, petit à petit, tu vois, ça a pris un peu de temps pour que j'en prenne conscience, mais je réalisais que mon métier, finalement, c'était d'inventer des produits, en fait, de créer des... Au-delà de créer des innovations de rupture, comme c'est écrit sur le papier, c'est aussi, tu vois, inventer des besoins superflus à des personnes, en fait, et leur créer, finalement, le millième primer de finisher de maquillage qui, finalement, en soi, n'est pas forcément utile, mais pour créer du biz, on le crée, tu vois. Et du coup, le voyant de l'intérieur, ça m'a un peu écœurée. Et je me suis en fait, ça m'a quasiment dégoûtée hein, du make-up à cette époque-là. J'ai pris un peu une pause après pour, tu vois, aussi reprendre, on va dire, le contact avec cette passion-là parce que ça m'avait un peu écœurée, quoi.
Mais comment tu... Enfin, je trouve le... Je sais pas si c'est le bon terme, désenchantement. Mm. Et le fait d'être dans ton job de rêve et de te rendre compte que c'est pas du tout ce que t'avais imaginé, comment tu te sens à ce moment-là?
Genre, je pense que t'as très bien le terme désenchantement, c'est exactement ça, quoi. Bah, à l'époque, si tu veux, je me rends compte... En fait, je m'en rends compte. Au début, je me l'avoue pas. Je me l'avoue pas parce que... Déjà, j'ai mis tellement d'énergie pour arriver là où j'en suis, tu vois, j'ai tellement bossé. Je viens pas du tout d'un milieu, en plus, parisien ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, mes parents bossaient pas dans le luxe, mes parents étaient poissonniers, donc tu vois, je viens pas d'un milieu aisé, j'ai grandi à la campagne, etc. Donc pour moi, c'était vraiment genre the goal, tu vois, ouais, d'arriver là où j'étais. Et donc du coup, finalement, réaliser que ce truc-là, c'était pas ce que j'avais imaginé, j'ai mis un peu de temps à me l'avouer, tu vois. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que il y a eu un déclic aussi avec mes amis qui un jour ont fait un peu une intervention à la How I Met Your Mother, tu vois. Ils m'ont pris entre quatre yeux, ils m'ont dit là en fait tu vas pas bien et on le voit. Arrête de te mentir, arrête de dire que ça va, que t'es heureuse dans ce truc-là, on le voit. Et ça a été le déclic. Et ce jour-là, j'ai décidé que c'était fini.
T'avais un plan B ou tu t'es dit j'aviserai après ?
J'avais pas vraiment de plan B. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui aime les plans B. En fait, je suis assez fonceuse et je pense que c'est parfois un peu dangereux, mais j'aime. En fait, je crois à mon instinct et. Et quand je décide de quelque chose, je saute et je vois ensuite s'il y a un filet en bas ou pas, quoi. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque-là, quoi. J'ai sauté. J'avais au fond quand même, en toute honnêteté, toujours eu le désir, je pense, de monter un truc. Enfin, j'avais déjà monté, du coup, ma chaîne YouTube à l'époque, etc. Mais j'avais toujours eu envie de créer quelque chose de différent ou du moins de pouvoir m'exprimer différemment à travers un projet. J'avais eu aussi quand même pas mal de mal avec la hiérarchie, etc. Donc je savais que le salariat n'était pas fait pour moi. Donc j'avais une petite idée que globalement, j'allais pas finir salariée dans la prochaine étape de ma vie en tout cas.
Ouais, mais tu t'es pas dit c'est maintenant.
Non. Voilà.
Non, non, je me suis pas dit c'est maintenant, je me suis juste dit il faut que ça cesse. Et d'ailleurs, j'ai mis un peu de temps, comme je te le disais tout à l'heure, à m'en remettre en quelque sorte, parce que bah, il fallait le temps de se réparer, on va dire, des dégâts que j'avais pu finalement subir dans mes précédentes expériences pro avec, comme je te disais, un management un peu compliqué, etc. Mmh. Et du coup... tout ce que je savais, c'était qu'il fallait que je sauve ma peau et ensuite j'improviserai et je trouverai une solution, quoi.
Alors du coup, tu as lancé ta marque de cosmétiques Julie Labelle en 2021, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Est-ce que, alors du coup, j'imagine que c'est un projet que tu avais déjà réfléchi en amont, donc potentiellement en 2020. Est-ce que le Covid, du coup, t'a donné ce coup de boost dont tu avais besoin pour te lancer dans l'entrepreneuriat et construire ton propre projet ?
Bah, moi, le Covid n'a pas été un coup de boost, puisqu'en fait, j'avais déjà donc le projet, tu vois, en tête. Donc moi, il a été lancé en juin 2021. Et de mémoire, tu vois, je quittais ma boîte, ma dernière expérience, je l'ai quittée en janvier 2019. Donc à partir de là, donc, j'ai mis en effet un peu de temps à me remettre de tout ça. Et ensuite, je dirais au bout de 6 mois à peu près, j'ai commencé à y penser au projet et à vraiment m'y mettre, tu vois. Donc c'était finalement en juillet 2019, à l'époque il n'y avait pas le Covid, tout allait bien.
Ouais.
et du coup, je me suis dit, bon, bah, ensuite, donc, j'ai eu l'idée de monter la marque, de monter aussi ce concept, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'y vais, il n'y a pas d'obstacle, quoi. Et le Covid est arrivé quelques temps plus tard. À l'époque, je n'avais pas encore lancé, du coup, le projet. Et au moment où le Covid arrive, je me dis, mais en fait, alors, j'ai déjà investi beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dedans. Mais je me dis, ça va être la catastrophe au moment du lancement. Et par chance, les déconfinements sont arrivés quelques mois avant que je lance. Et au moment où j'ai lancé, les masques tombaient. Et du coup, les gens se promettaient à porter du maquillage. Et j'ai pu, du coup, on va dire, faire un lancement relativement réussi, quoi.
Alors, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, mine de rien, tu pars de zéro. Donc, par quoi tu commences quand tu te dis, OK, je vais lancer une marque de make-up qui soit clean, qui soit éco-responsable, qui soit vegan, etc. Parce que, alors, c'est sûr que c'est ce que, en tout cas, une grande partie des consommateurs recherchent. Mm. Mais en fait, c'est hyper dur à produire. Enfin, je suis pas de ce côté-là et j'ai pas d'expérience, mais je sais déjà que le Made in France, c'est compliqué. Alors que j'imagine que, à ce niveau, ou en tout cas avec tes exigences, et pour produire un produit qui correspond à tes valeurs, ça a dû te demander aussi mais pas mal de boulot. Donc, par quoi tu commences quand tu dis, OK, je lance ce projet-là?
Bah, première chose, déjà, tu te dis, enfin, moi en tout cas, comment ça s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais répondre à une frustration que je connais. Je pense que c'est le cas d'ailleurs de pas mal d'entrepreneurs, etc. Mais en gros, le premier truc, c'est quelle idée, tu vois, tu as ton projet, qu'est-ce que tu veux vraiment faire comme produit. Moi, je savais que globalement, je voulais aller à l'encontre de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire que mon job était de créer à l'époque un maximum de produits et créer des besoins superflus. Bah, en fait, ma mission que je me suis donnée avec cette marque-là, c'était de faire l'inverse, de simplifier les routines, d'épurer aussi, tu vois, les trousses de toilettes et d'avoir aussi moins de produits et de finalement alléger aussi notre impact sur la planète. Ça, c'était un peu le point de départ, tu vois. C'était quelle est la frustration à laquelle moi, je veux répondre. Et ensuite, du coup, une fois que j'avais l'idée du produit, etc., bah, je suis allée chercher, première chose, un fournisseur. Par chance, parce que j'étais dans l'innovation make-up pour des grands groupes, j'avais pas mal de contacts, je connaissais beaucoup de fournisseurs, de laboratoires, etc. Et donc, je les ai démarchés. Ce qui était marrant, c'était que je les ai démarchés, mais du coup, plus sous la casquette Julie Labelle, responsable innovation maquillage pour une grande marque de luxe, mais Julie Labelle toute seule chez elle, qui essaie de monter son truc. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fermé la porte, beaucoup de labos qui refusaient de travailler parce que j'étais toute seule, parce que, en plus de ça, tu as des minimums de quantité dans cette industrie qui sont énormes. Et du coup, y avait des contraintes que moi, je ne pouvais pas tout simplement tenir, tu vois. Et du coup, j'ai fini par trouver un labo, mais j'ai dû passer des entretiens. C'était un véritable entretien, quasiment un entretien d'embauche pour prouver qu'il fallait me faire confiance et que, en gros, ils pouvaient bosser avec moi, etc. Et ils ont accepté du coup de réduire leur quantité pour me donner une chance de me lancer, quoi.
Ah oui, c'est déjà, il faut être motivé, quoi. Si tu l'es pas, je pense que ouais. Déjà dans cette étape-là, tu baisses les bras.
Déjà,
quoi.
Ouais, déjà il faut déjà avoir pas mal de motifs. Déjà rien que sur cette étape-là, en effet, faut en vouloir, surtout dans le make-up. En fait, en soins, c'est un peu plus facile parce qu'il y a plus de façonniers en France. Mais le maquillage, c'est une expertise qui est assez rare en France. En fait, il y a peu de laboratoires qui sont spécialisés là-dedans. Et c'est souvent des procédés de fabrication qui sont beaucoup plus complexes. Et donc, du coup, c'est d'autant plus difficile de trouver un fournisseur. Donc ouais, premier truc, tu trouves un fournisseur. Évidemment, tu trouves une façon de financer ton projet aussi, oui. Ce qui, mine de rien, est importante. Moi, ça a été mes économies et aussi de la love money, donc mes proches qui ont filé un coup de main, un coup de pouce pour pouvoir lancer le projet, quoi.
Et ça a été quoi les... Est-ce que tu te souviens d'autres challenges, hormis le fait de trouver un fournisseur qui t'ont peut-être pas découragé, mais qui t'ont rendu la vie dure quand t'as décidé de te lancer, ou peut-être même maintenant, t'en as encore ?
Alors, des challenges, je pense que j'en ai tous les jours, ou presque. Non, par contre, en effet, il y en a eu plein, honnêtement, il y en a eu plein. Typiquement, même avant de chercher un fournisseur, je cherchais également du coup à déposer le nom de marque. J'ai fait deux dépôts de marque loupés à l'INPI, parce qu'en fait, y a beaucoup de marques qui sont déjà déposées par les grands groupes. Et donc, du coup, en fait, c'est très difficile de trouver un nom qui est disponible et qui te plaît. Et c'est d'ailleurs pour ça, du coup, que j'ai fini par prendre mon nom, tout simplement. Et mine de rien, tu vois, j'ai déjà paumé pas mal d'argent comme ça, parce que quand tu fais un dépôt de marque, tu sais qu'après, évidemment, s'il y a des problèmes avec ou pas, quoi. Donc, tu oui, le déposes, ça passe. Et ensuite, si ça pose problème, tu le sais après, quoi. Donc, des challenges, j'en ai eu pas mal. Il y a eu ça, il y a eu quand tu formules un produit naturel comme c'est le cas pour nous, il y a énormément de contraintes, ce qu'on appelle de stabilité, de fabrication. Il faut que le produit, tu vois, il tienne à 40 degrés pendant 3 mois, etc. Et quand tu formules avec du naturel, évidemment, tes produits sont beaucoup plus sensibles en quelque sorte. Et donc, du coup, les fabrications sont beaucoup plus longue, beaucoup plus coûteuse, et aussi tous les tests et tout que tu dois faire pour sont beaucoup plus longs. Ouais.
Oui, en fait, la cosmétique, c'est un vrai challenge pour le coup quand on décide de lancer sa marque, parce que finalement, effectivement, il y a plein de, pas de restrictions, mais de choses à respecter, de règles, etc., puisque c'est un produit que les gens vont mettre sur eux. Mmh. Est-ce que ça t'a facilité les choses, ou est-ce que ça te les a compliquées de faire des produits entre guillemets multifonction, puisque ouais. Ça peut être un blush, ça peut être un rouge à lèvres, etc. Donc la touche, est-ce que du coup ça a facilité les choses, ou au contraire c'était un plus grand challenge?
C'était on va dire la cerise sur le challenge, tu vois. C'était vraiment déjà monter une marque de cosmétiques, je pense que c'est assez complexe, en effet,
seul
en plus, mais trouver, en plus, vouloir faire un produit qui fait trois usages en même temps et qui soit non déceptif sur les trois zones, du coup lèvres, yeux et joues, c'était franchement un vrai challenge. Et ça rajoutait des contraintes, déjà de formulation, parce qu'il faut que ton produit soit évidemment safe sur les trois zones, mais aussi il faut, comme je te le disais, qu'il fonctionne, quoi, tu vois, que les gens le trouvent chouette sur les yeux, les lèvres, les joues, que globalement tu arrives à mettre le curseur entre un produit qui va tenir sur les yeux et qui va être confort sur les lèvres, qui va pas coller, mais d'un autre côté qu'il faut qu'il tienne. Et donc, en fait, c'est vraiment, je pense que je me suis rajouté en plus une difficulté, tu vois, mais c'était aussi tu vois, tout le concept et mon but aussi avec cette marque là c'était d'arriver à faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait, du moins pas comme ça. Et voilà, donc ça a rajouté des difficultés, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi notre force, quoi.
Oui, complètement. Mmh. Mais comment tu gères alors, j'ai pas le mot en français, je déteste faire ça, le range de couleurs, en fait, sur tes produits, parce que je me doute que, certes, t'as quelques idées, t'as potentiellement aussi envie que ce soit inclusif et que chacun puisse avoir une couleur qui corresponde à sa carnation. Parce qu'actuellement, il y a la touche, il y a des pinceaux aussi.
Ouais.
J'en ai oublié.
Non, c'est ça. Okay. C'est ça, pour l'instant, c'est ça.
Donc, je me dis que dans les années futures, tu as peut-être vocation à vouloir sortir de l'anti-cerne ou du fond de teint, etc. Et comment tu gères le fait de... En fait, ça va être encore un autre challenge que de se dire il va falloir plaire, ou en tout cas... aider un maximum de monde en fonction de tes possibilités aussi, quoi.
Complètement. La gamme de teintes, c'est en effet une vraie complexité, parce que
En plus de ça, tu vois, tu as des minimums de quantité que tu dois commander à ton laboratoire par teinte. Donc, plus tu fais de teinte, évidemment, bah, ça multiplie aussi, tu vois, ton stock finalement que tu dois investir. Moi, comment j'ai commencé ? J'ai choisi du coup de faire 3 teintes parce que ça correspondait tout simplement à mon budget de départ, honnêtement, en toute honnêteté. J'ai voulu faire... En gros, je voulais faire des teintes qui fonctionnent sur toutes les carnations et en même temps qui ne se cannibalisent pas. Tu vois, qu'en gros, elles soient toutes complémentaires et qu'il n'y ait pas un doublon, tu vois, parce qu'au lancement, ce serait dommage d'avoir une teinte qui ressemble trop à une autre et que du coup, qui ne se vendent pas, tu vois. Mmh. Donc du coup, j'ai lancé 3 teintes. J'ai lancé un nude qui convenait, donc on a testé sur un maximum de personnes. Bien sûr, ça ne correspond malheureusement pas à tout le monde, mais on a essayé de le faire le plus, on va dire... inclusif possible en quelque sorte. Ensuite je voulais faire un rouge parce que c'était une teinte qui est quand même assez intemporelle et que beaucoup de gens aussi aiment porter, et je voulais faire un highlighter aussi puisque pareil c'était aussi un produit que moi personnellement j'aime beaucoup porter et qui venait en complémentarité, tu vois, des deux autres, quoi. Donc j'ai réfléchi la gamme comme ça, mais en effet si demain je dois lancer, bah, tu vois, on travaille sur de nouvelles teintes, mais on travaille également sur des produits type teint, etc. Bah là c'est une autre limonade puisque c'est pas juste quelques teintes qu'il faut avoir, c'est une véritable gamme entière, tu vois. Et ça nécessite beaucoup d'investissement, de la trésorerie évidemment, et aussi beaucoup de d'essais en fait, puisqu'il faut que ça convienne à plein de carnations différentes, quoi.
Ouais, c'est un gros challenge. Bon, j'imagine que c'est pas pour tout de suite.
Mais... Non, en effet, le teint, c'est pas pour tout de suite, à moins que je gagne au loto.
Parle-moi du lancement du coup de la marque, parce qu'on a dit que c'était en 2021, mais d'un point de vue un peu coulisses peut-être, qu'est-ce que toi t'as mis en place pour faire en sorte que ta marque Julie Labelle soit visible au maximum de personnes possibles ?
Ouais. Moi, j'avais la chance quand j'ai lancé d'avoir du coup ma communauté, donc principalement sur Insta, puisque YouTube, je le fais plus trop, mais j'ai quand même une communauté encore assez engagée sur Instagram. Et en fait, avant même de lancer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé bien en amont, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, les gens sont engagés dans la marque, tu vois. C'est que ils font partie de l'aventure depuis le départ, tu vois, vraiment depuis... les premières idées, même le déclic, tu vois, que j'ai eu quand j'ai décidé de lancer la marque. Vraiment, en fait, j'ai vraiment lancé la marque au moment où les gens déjà la connaissaient, tu vois. Ils connaissaient son histoire, ils savaient qu'il y avait des produits globalement multi-usages. Enfin, il y avait, tu vois, tout un teasing qui avait été fait, mais vraiment, je dirais quasiment un an et demi en amont. Et ça, du coup, ça a permis évidemment de faire que le lancement s'est très bien passé. Ouais.
T'as opté pour des précommandes ?
Oui, j'ai opté pour des précommandes parce que... Alors moi, dans tous les cas, si tu veux, j'avais déjà commandé chez mon fournisseur puisque, bah, encore une fois, en cosmétique, quand t'as des préco, si tu dois attendre d'avoir le cash pour faire ta commande, il se passe, si tu veux, encore un an entre le moment où t'as le cash et le moment où, globalement, tu lances le produit, quoi. Donc, moi, j'ai pas fait comme ça, mais si tu veux, ça m'a permis de solder ce qui restait, en fait, sur les commandes et, du coup, de financer à 50% le stock.
Est-ce que c'est challengeant ? Parce que je me dis, par rapport aux marques qui font des gros volumes, qui sont dans la surplus de consommation, etc., et qui sortent des nouvelles co tout le temps pour un oui ou pour un non, est-ce que c'est plus challengeant de vendre peu de produits tout au long de l'année ?
Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus complexe parce que, si tu veux, le marché de la cosmétique, il est quand même... vraiment dynamisé par l'innovation. Les gens adorent la nouveauté, ouais. Ils adorent tester, etc. Donc quand tu es une marque qui essaye de réduire, on va dire, déjà il y a pas, tu vois, nous on fait pas de collection, on n'a pas d'ambition de faire des collections saisonnières avec des couleurs, etc. Donc c'est vrai que nous on arrive sur le marché avec un concept beaucoup plus intemporel et quelque part responsable, mais du coup face à des acteurs qui, eux, tu vois, sortent beaucoup de produits, de teintes, et c'est vrai que c'est un vrai challenge de pouvoir sortir du lot et aussi pouvoir peut-être éduquer les consommatrices, expliquer pourquoi, tu vois, nous on fait moins de produits et pourquoi on fait pas des teintes saisonnières ou, tu vois, des teintes un peu des palettes, les choses comme ça qui tu vois sont un peu plus comment dire, sont un peu plus... en termes d'impact environnemental, etc., c'est pas la même chose, quoi.
Mine de rien, il y a un travail éducatif à faire auprès des gens, de leur expliquer que... pour coller à tes valeurs, eh ben, c'est important aussi d'avoir peu de produits, de vraiment les penser, etc. Enfin, je trouve que c'est sûr.
Complètement. T'as ça, et puis t'as mine de rien aussi tu vois, l'éducation aussi sur le tarif, tu vois, parce que nous, on est sur un tarif assez premium quand même. Enfin, on n'est pas non plus l'ultra luxe inabordable, mais on reste quand même, tu vois, une marque assez premium en termes de positionnement prix. Et donc aussi, il faut expliquer, bah voilà, pourquoi nous, ça coûte ce prix-là, pourquoi. Pourquoi aussi, tu vois, on a peu de teintes aujourd'hui. Enfin, y a pas mal de choses à expliquer aussi aux clientes à l'heure actuelle pour leur montrer, bah, en fait, on fait à notre échelle aussi. Et ce qui fait aussi notre force, c'est d'être petit et d'avoir pas mal de convictions. Et d'un autre côté, bah, sur la gamme, en effet, ça se ressent puisqu'on a aujourd'hui, on a 4 teintes. On a été lancé il y a 2 ans. C'est assez lent comme process par rapport à d'autres sociétés, tu vois.
Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'après, effectivement, je trouve qu'on est à un espèce de tournant dans notre société où on a envie de se connecter à des humains. Et une marque comme la tienne, en fait, je trouve que ça correspond bien à ce que les gens auront envie de consommer dans les années à venir pour se rapprocher de, tu vois, d'une personne en qui ils peuvent se reconnaître, qui est vraiment animée par ce qu'elle fait et non pas par l'argent, tu vois, comme ça peut être le cas avec les grandes entreprises.
Oui, complètement, complètement. Bah, c'est sûr que, tu vois, moi, je le vois bien, les gens nous soutiennent aussi parce qu'ils soutiennent, tu vois, en fait, ils soutiennent notre mission et les humains qu'il y a derrière, donc moi et mon apprenti en quelque sorte, au-delà de soutenir juste un produit. En fait, ils achètent pas le produit finalement, ils achètent le pourquoi. Ils achètent pourquoi on fait ça, pourquoi on se bat aujourd'hui pour, tu vois, une beauté plus raisonnée, avec des trousses de toilettes, on va dire, plus allégées, et pourquoi, tu vois, on fait les choses. Et je pense que les gens, ils achètent aussi pour soutenir cette conviction-là.
Complètement. Alors oui, parce que du coup, tu as lancé cette marque toute seule. Depuis peu, tu as une apprentie. Qui fait quoi, sur quoi elle t'aide finalement dans ton quotidien ?
Elle s'appelle Charlotte et du coup, elle gère toute la partie communication. Donc, tout ce qui est, tu vois, animation des réseaux sociaux, les posts Insta, les stories, etc. En fait, elle veille à ce que, globalement, on soit présent quotidiennement ou quasi quotidiennement sur les réseaux. Puisque ce qui est difficile en fait pour moi, c'est que ça a toujours été ce que j'adorais faire, mais aujourd'hui j'ai tellement d'autres sujets à gérer, tu vois, que j'ai du mal à, en plus de ça, faire de la com tous les jours, prendre mon téléphone, faire des stories. Et donc elle aide aussi, tu vois, à être présente de manière plus régulière sur les réseaux. Et sinon, en termes de casquettes, moi, je porte à peu près toutes les autres casquettes, du coup.
C'est ce que j'allais te dire, du coup, c'est toi qui prépares les commandes, qui gère le site, toutes ces choses-là, quoi.
Oui, les commandes, on les fait encore en interne. Je pense qu'on va bientôt passer chez un logisticien parce que ça devient... j'ai envie, de mettre mon temps sur des choses un peu plus précieuses. Et du coup... Pour l'instant, bah, je gère les RH, la DA, penser, tu vois, enfin, les nouveaux produits, les développements produits, les relations avec les fournisseurs, les relations avec les distributeurs, à peu près tout, en fait, tout le reste, pour l'instant.
Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Parce que du coup, tes produits actuellement sont disponibles sur ton site. Est-ce que tu as la volonté que ce soit disponible dans des boutiques ? Est-ce que tu as la volonté, pourquoi pas dans les années qui viennent, de faire des partenariats avec d'autres marques, etc.
Alors oui, on a commencé en fait, quand j'ai lancé le projet à l'époque, je voulais être 100% sur mon site et pas avoir de distributeur. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je me suis rendu compte tout simplement que les gens ont besoin de tester les produits de maquillage. Ce qui est un peu bête, c'est que j'aurais pu le prévoir avant, mais quelque part, on n'a pas de testeurs, tu vois, sur le site. On ne peut pas en envoyer parce que les testeurs, encore une fois, l'échantillonnage, ça a un certain coût et pour l'instant, on ne peut pas encore se le permettre. Mais du coup, les distributeurs, ça nous apparaît comme une évidence pour avoir un point de contact avec notre cliente et lui permettre de tester les teintes, de voir quelle teinte lui plaît, etc. Donc on a commencé récemment à ouvrir quelques petits points de vente. On en a 2 à Paris, on en a 1 à Épinal et on en a un autre à Montpellier. Mais tu vois, on les a ouverts simplement parce que c'était à la demande soit du distributeur, soit de nos clientes qui ont bassiné les revendeurs en leur disant « Vous n'avez pas la marque Julie Label, j'aimerais bien la trouver, etc. » Donc, on était jusqu'à présent en réaction et maintenant, on a pour objectif, pour le coup, cette année, de ne pas être en réaction justement et d'aller chercher des distributeurs et de chercher nous-mêmes pour avoir des points de contact avec nos clientes.
Ouais, je trouve qu'effectivement, c'est vrai que c'est entre guillemets logique, mais c'est une bonne stratégie que d'avoir des distributeurs pour la marque. Est-ce que, en tant que youtubeuse beauté, tu as pensé à faire du marketing d'influence pour promouvoir ta marque ?
Bien sûr, j'y ai pensé. On est d'ailleurs en train d'élaborer une stratégie influence avec mon apprenti. On voit très bien, tu vois, l'idée, c'est de trouver des influenceurs qui sont évidemment alignés avec nos valeurs, qui correspondent aussi à nos clientes et qui les représentent bien. Donc là, pour l'instant, on va dire qu'on est en train de faire la shortlist des influenceurs qu'on aime bien. Et bien sûr, ça fera partie de la stratégie pour cette année et l'année d'après. Mmh. Au même titre, tu vois que la presse, etc., l'influence, ça reste évidemment un moyen de communication ultra, ultra fort. Quand il est bien utilisé.
C'est bien de le préciser. dans ta vie, à toi, en tant que Julie, comment tu fais pour trouver un espèce d'équilibre entre ta vie perso, ta vie de femme, ta vie de couple et ton job et ton entreprise qui représentent quand même une grande partie de ta vie, quoi.
Honnêtement, l'équilibre, il est assez catastrophique. Il est assez catastrophique. Depuis le début d'année, ça va un petit peu mieux. Mais pour tout dire, j'ai fait un zona en décembre dernier. Donc vraiment le step ultime du stress, tu vois. Donc je suis pas, on va dire que je suis pas vraiment la meilleure personne.
Attends, moi j'en ai tous les trois mois.
Ah bon, ok, ok. Bon, voilà. Moi, je suis pas la meilleure personne pour donner des conseils d'équilibre parce que je pense que je me suis vraiment laissée aspirer par ce projet que j'adore et que c'est un peu la concrétisation, tu vois, de ma vie ou du moins de ma jeune vie jusqu'à présent. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à mettre des limites, je pense, pendant les deux premières années. J'ai très peu, tu vois, c'est très rare que j'ouvre pas mon ordi le week-end, etc. Mmh. Et je pense que je l'ai ressenti. Au mois de décembre, j'ai vraiment poussé les limites au maximum et du coup, mon corps m'a dit stop. Mais maintenant, c'est vrai que depuis le mois de janvier, j'ai essayé de mettre des choses en place pour justement éviter de burn-out de ma propre boîte, ce qui serait quand même un peu bête, arrive malheureusement pour pas mal d'entrepreneurs. Donc l'idée, c'est quand même de pas se cramer tout de suite. Donc j'essaye un petit peu de garder, on va dire, une hygiène de vie un peu plus saine, de dormir beaucoup, tu vois, pour essayer aussi de dormir correctement, on va dire, suffisamment pour être en forme le lendemain. Je fais aussi pas mal de petites marches dehors pour essayer, tu vois, de garder aussi un peu de l'énergie et en même temps de voir autre chose que mon écran d'ordinateur.
Ça, c'est un petit détail. Moi aussi, je le fais, mais ça a changé complètement mon mood, je trouve, que de couper et de juste sortir, prendre l'air qui a soufflé.
Ah, mais complètement. Enfin, moi, et c'est là, tu vois, où j'ai des idées souvent. Je marche, etc. Tu sors les yeux de ton téléphone et juste tu t'apprécies aussi un peu ce qui t'entoure et c'est souvent ce qui t'inspire aussi, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place jusqu'à présent. Après, en toute honnêteté, l'équilibre, il est encore assez difficile. C'est difficile de vraiment couper, mais en tout cas, j'essaie de faire, tu vois, au mieux. Et surtout, j'essaie de faire en sorte de pas faire trop peser sur mon couple. Je pense que ce que j'ai eu tendance à faire et qui a été un peu dangereux, on va dire, dans les premières années de la boîte, c'est que je prenais mon copain un peu comme un psy et je lui racontais toutes mes histoires de boîte, etc. Donc non seulement c'était pas bon pour notre couple, mais c'était pas bon pour moi non plus, puisque du coup, j'ai pas de coupure. Du coup, je rentre chez moi et en fait, je déverse les inquiétudes ou les challenges que j'ai actuellement dans la sphère privée. Et donc, j'ai tout simplement, en toute honnêteté, je vois un psy depuis du coup le mois de janvier aussi, pour aussi avoir un sas vraiment spécifique où je peux librement, tu vois, exprimer mes inquiétudes sur ma boîte ou des challenges ou des problématiques sur lesquelles je coince, etc. C'est un peu ma coach, en fait, en quelque sorte.
Et c'est pas plus mal. Au moins, elle a un diplôme où elle peut
Exactement, exactement.
Alors, depuis quelques mois, si je me trompe pas, ou peut-être années, je ne sais pas, j'ai vu également que tu avais pris un bureau.
Tout à fait.
Ce qui, je pense, facilite aussi la coupure, parce que si tu travaillais de chez toi, j'imagine que ça devait être compliqué de faire la distinction entre là, je travaille, là, c'est ma vie.
Complètement. Complètement. Bah, c'est vrai que, en plus, si tu veux, à l'époque, j'avais vraiment... Enfin, j'ai toujours, d'ailleurs, le stock avec moi. Donc, oui. À l'époque, il était chez moi dans mon appart. Mon appart fait 35 mètres carrés, donc autant te dire que je vivais entre les touches, pour le coup, entre mes produits. Et il y avait absolument aucune coupure, vraiment, du coup, puisque je travaillais de là-bas. Donc, j'ai commencé par prendre un petit bureau dans un coworking. Et là, tu vois, on est en coloc avec une autre start-up qui bosse aussi, du coup, sur le web, en quelque sorte. Et ça m'aide vachement à la fois à avoir une coupure, en effet, avec ma sphère, l'espace privé. Mais également, tu vois... ça m'énergise dans le sens où j'évolue avec des gens qui ont aussi des problématiques business, on échange, on a des contacts, on a des, tu vois, ça m'aide beaucoup et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour mon business jusqu'à présent, ouais.
Ouais, c'est clair que c'est important à la fois l'entourage et le fait d'avoir des personnes qui vivent la même chose et aussi de couper finalement dans le quotidien, il y a rien d'égal à ça, je trouve, pour faciliter en tout cas, parce que c'est sûr que l'équilibre, je pense que c'est une quête un peu qui s'arrêtera jamais, tu vois.
Ouais.
Mais au moins, ça facilite un peu ça au quotidien.
Ah, complètement, complètement. Et puis ça me donne une petite excuse pour faire soit ma marche matinale ou venir au bureau en vélo. Et j'arrive et je suis, tu vois, vraiment, je ressens vraiment une coupure entre les deux. Ça fait du bien, ouais.
Alors, c'est quoi tes projets ou tes ambitions pour cette année ? Peut-être pour toi ou avec ta marque.
Oui, pour la marque, ce serait, comme je te le disais, donc développer le réseau de distribution. Ça, c'est un de nos grands projets de cette année. On aimerait bien aussi lancer notre première vraie OP de com, puisque jusqu'à présent, donc, on fonctionne franchement. Donc, grâce évidemment à la communauté que j'ai pu construire sur les réseaux, mais aussi et surtout grâce au bouche à oreille. Et aujourd'hui, enfin, si tu veux, ça a ses limites évidemment. Oui. Si on veut grandir aujourd'hui, on doit aussi mettre les moyens derrière. Donc, l'idée ce serait de lancer aussi cette année notre première OP de com avec en effet donc une OP influence, de la presse, etc. pour se faire connaître et sortir un petit peu de la communauté qu'on a aujourd'hui.
Effectivement, ça pourrait être intéressant. Enfin, je trouve que tu as eu la possibilité de bien poser la marque toi-même, de t'habituer dans ton travail au quotidien, dans la gestion de tout ça. Donc, effectivement, c'est le bon moment, quoi.
Oui, c'est le bon moment. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire trop tôt, puisque c'est aussi, mine de rien, des moyens financiers que tu mets dans une OP de com, etc. Et puis, il faut bien connaître ta cible avant de le faire, je trouve, et quel message vraiment, en fait, tu veux transmettre. Moi, le message entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, tu vois, il a beaucoup évolué. Enfin, ma mission et mes convictions ont beaucoup évolué et se sont précisées. Et je pense qu'aujourd'hui, notre message de communication, il est plus fort qu'il l'a été parce que j'ai eu tout simplement le temps aussi de grandir avec le projet et de me rendre compte de ce que je voulais affiner, pas faire, etc.
Effectivement, ouais. Écoute, merci Julie pour ton partage d'expérience. Franchement, c'était hyper intéressant. Si vous écoutez cet épisode encore jusqu'ici, n'hésitez pas à aller voir la marque Julie Labelle, à découvrir les produits qui sont disponibles, ce qui va arriver aussi potentiellement sur l'année. On peut également te suivre sur ton compte un peu plus perso où tu partages des conseils beauté, des conseils skincare.
Tout à fait.
Les conseils de Julie ou conseils de Julie ?
Les conseils de Julie, sur Instagram et en effet sur TikTok sinon les conseils de Julie, mais j'ai 3 vidéos donc c'est une catastrophe. J'essaie de m'y mettre mais vraiment bon, venez plutôt sur Instagram, ce serait mieux.
Ouais, les Reels ça fonctionne aussi très bien.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à toi Safia.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.